grap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous retrouverez Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera en deuxième heure, mais également Bertrand Chamerois pour son écran de veille. Clémence Olivier qui remplace Eva Rock pour le zapping du lendemain. Et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Genton et les audiences de Louise Bernard, les 5 fantastiques. Notre info média télescope l'actualité avec l'affaire de la petite Mia enlevée à sa propre mère. Faut-il la confier à une famille d'accueil? On en parle. Chaque année, 300 000 enfants sont confiés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Des foyers, des familles d'accueil, mais également des lieux spécifiques pour quelques centaines d'adolescents dont les troubles sont là, très graves. Et c'est à eux que s'intéresse un documentaire diffusé ce soir sur France 2, produit par notre première invitée, Mélissa Theuriot. Puis ensuite, l'humoriste Issa Doumbia. À force de se faire remarquer dans les émissions des autres, puis d'avoir son émission à lui sur W9, il franchit un cap demain soir avec un prime time sur une grande chaîne hertzienne, Show Me Your Voice, un format coréen qui a cartonné partout dans le monde, et donc peut-être sur M6. Enfin, Michel Field, le patron de la culture de France Télévisions, qui publie un livre de récits personnels et d'atmosphère. Ça s'appelle Paris et moi. Et moi, comme quelqu'un qui serait ému, il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Alerte sociale chez Canal+, vers une réforme des aides publiques à la presse. Et puis le nouveau chouchou de la fiction française, c'est comme ça que l'appelle le Parisien.fr. Il est à l'affiche de la nouvelle série de France 2. Vous verrez qui c'est dans quelques instants.
Hâte. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir?
France 3, puisque c'était le lancement de la saison 5 de Tandem. Deux épisodes inédits qui ont attiré 4 680 000 téléspectateurs. Spectateurs, 19,5% de part d'audience. C'est un très bon retour, un deuxième meilleur lancement de la série derrière la saison précédente, un petit peu en baisse donc, mais franchement c'est un très bon score. Ensuite, c'est les TF1 avec le film de science-fiction Le Labyrinthe, la Terre brûlée. 3 360 000 téléspectateurs, 15,5% de part d'audience. Le premier volet a été diffusé la semaine dernière. Ça perd un petit peu de téléspectateurs, c'est normal. Ensuite, c'est France, c'est un coude à coude en réalité. Ouais. C'est France 2 qui gagne de peu avec un film de science-fiction aussi, Le Cinquième Élément de Luc Besson, 2 860 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience, un bon score pour un film qu'on a déjà vu
et revu.
Et puis je vous le disais, au coude à coude, puisque M6, avec la suite de la saison 14 de Pékin Express, est en hausse, 2 850 000 téléspectateurs, c'est même le deuxième meilleur score de la saison depuis le lancement, qui était en fin janvier, et 12,8% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias avec vous Antoine Genton et la crise sociale qui s'aggrave à Canal+.
Des élus du personnel ont déclenché deux procédures la semaine dernière. Une information révélée hier par le site lesjours.fr. Deux droits d'alerte. Le premier pour danger grave et imminent, ce qui entraîne une enquête de l'inspection du travail. En cause, selon les élus, la dégradation des conditions de travail. Ils expliquent que les salariés ont peur d'être licenciés à tout moment et sans raison valable. Second droit d'alerte pour atteinte à la liberté individuelle. Il concerne là le texte de soutien à l'humour Sébastien Thoen, texte signé en interne par une centaine de journalistes et consultants à la fin de l'année dernière. Ce droit d'alerte-là peut entraîner une saisine du juge des prud'hommes. La direction de la chaîne cryptée n'a pas réagi.
Presse écrite vers une réforme des aides publiques à la presse.
Une réforme des conditions de leur attribution, précisément. Elle pourrait désormais être reliée à la présence de journalistes dans les rédactions et pas de chargés de contenu, comme cela se passe désormais pour plusieurs magazines papier ou numériques, comme Science et Vie par exemple. C'est ce que préconise un rapport publié hier, une proposition dont les parties concernées vont bientôt discuter. Les éditeurs de presse et les syndicats de journalistes, sous l'égide du ministère de la Culture, c'est lui qui va organiser cette concertation. Pas de date précise pour le moment.
Le focus programme du jour, c'est une nouvelle série qui arrive sur France 2 ce soir.
L'école de la vie, c'est son titre, l'histoire d'un professeur d'histoire-géographie, Vincent Picard, qui s'apprête à devenir père, mais un drame survient. Il va alors se reconstruire en s'impliquant encore plus dans son travail auprès des collégiens. Il va notamment tenter de les aider dans leur vie personnelle. Un personnage à la fois abattu et combatif, traversé par de nombreuses émotions. C'est ce qui a plu, c'est ce qui a intéressé l'acteur choisi pour l'incarner. Un comédien qu'on a déjà vu dans deux autres séries, Planqueur sur Netflix et Je te promets sur TF1. C'est Guillaume Labbé.
J'aime ressentir des émotions, vivre des émotions quand je joue des rôles et vivre des vies que j'ai pas vécues. Alors heureusement que j'ai pas vécu la sienne. Et après, c'est vraiment la série quand je l'ai lue, la façon dont c'était écrit, le fait qu'ils arrivent à tacler des problématiques qui sont quand même hyper lourdes avec relativement peu de temps, parce que chaque épisode c'est vraiment une problématique adolescente ou une jeune adulte, plus ma problématique qu'à moi, plus aussi celle des professeurs. Et ils arrivent à aller dans le fond des problèmes, je trouve, à pas être manichéen dans la façon de traiter les problèmes et être très juste sur les problématiques et surprenant.
Une série nuancée dans laquelle la musique occupe une place importante, une chanson en particulier qui revient à chaque moment touchant de la reconstruction de Vincent Picard, une chanson originale. Beau, c'est son titre, créé spécialement pour la série par Clara Luciani.
Ces mots qu'on voit au lance-pierre.
Et cette chanson, eh bien, elle a aidé Guillaume Labbé à interpréter certaines scènes.
La première fois que je l'ai entendue, c'était justement dans l'appartement de Vincent Picard, donc des scènes avec sa femme, le souvenir de sa femme qui me hante, la solitude dans cet appartement, quand il vient avec son meilleur pote, sa fille, les difficultés qu'il a avec elle, des émotions ultra fortes. Nagui, qui est coproducteur, nous a fait écouter une première version sans les paroles, avec que les instrus, et c'était vraiment hyper fort, et je suis trop content de l'avoir entendue à ce moment-là, parce qu'elle nous a nourris, c'est évident, avec Emily de Ken qui joue ma femme. On se l'est mise sur des scènes en particulier, on l'a écouté à l'iPhone, c'est sa version instru, ça nous a vachement aidé. J'ai jamais parlé à Clara Luciani, j'ai jamais eu l'occasion de la remercier.
Voilà, le très poli Guillaume Labbé. Merci Clara Luciani, nouveau chouchou de la fiction française. Hein. C'est lui donc, comme l'écrit leparisien.fr.
Ah ben voilà.
C'est lui qui tient le rôle principal dans L'école de la vie. Au casting également Bruno Sanchez. C'est Liliane dans Catherine et Liliane, Florence Pernel et Émilie Dequesne, Déborah François également. L'école de la vie, nouvelle série à découvrir sur France 2 ce soir. Deux épisodes à partir de 21h05. Il y en aura 6 en tout de la semaine prochaine et de la semaine suivante.
Facebook riposte et arrive sur le marché de l'audio.
Le géant du numérique va proposer une nouvelle fonctionnalité audio donc. Elle permettra de discuter au sein d'un salon. Cela vous rappelle peut-être quelque chose, c'est normal.
Oui.
C'est le principe de l'application Clubhouse, en pleine expansion et valorisée déjà près de 4 milliards de dollars, 3 milliards 300 millions d'euros. On vous en a déjà parlé dans Culture Média. Facebook va même un peu plus loin. Les discussions pourront être enregistrées et téléchargées après la diffusion. Ces live audio rooms devraient être disponibles d'ici l'été pour tous les utilisateurs de Facebook.
Et Facebook qui a annoncé également le lancement d'autres fonctionnalités autour de l'audio.
Oui, vous pourrez bientôt publier des sons, des extraits sonores, des soundbites en anglais, c'est sur votre page. Tout comme vous postez aujourd'hui des photos, des vidéos, du texte. Dernière annonce de Facebook, vous pourrez aussi écouter des podcasts directement sur le réseau social, des fonctionnalités qui vont être testées et intégrées dans les mois qui viennent.
Et donc, il sera peut-être possible d'écouter le nouveau podcast d'Olivier Delacroix, notre ami, directement sur Facebook.
Oui, en attendant, il est disponible sur l'application Europe 1 et sur les plateformes de podcast. Nouveau podcast disponible à partir d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Dans les yeux d'Olivier ». C'est une adaptation de l'émission qu'Olivier Delacroix présente sur France 2, une version retravaillée, un témoignage seulement par épisode, sur des thèmes de société comme le burn-out, les mères célibataires, l'emprise aussi. Le premier épisode est consacré au viol. « Dans les yeux d'Olivier », une production Europe 1 Studio. C'est deux épisodes par semaine, chaque mercredi et chaque vendredi.
Et puis un film français prévu pour le cinéma va finalement sortir sur Netflix.
Comme je suis devenu super-héros, un thriller fantastique avec Pio Marmaille, Leïla Bekti, Vima Laponce, entre autres. Il devait sortir en octobre, il a été repoussé à plusieurs reprises. Et pour ne plus attendre une date de réouverture des salles de cinéma, eh bien, il sera diffusé sur Netflix donc dans 2 mois et demi, le 9 juillet. Ce n'est pas le premier à faire ce choix. Dernier exemple en date, Madame Claude, disponible sur Netflix depuis le début du mois. Et ce n'est probablement pas le dernier non plus. Près de 400 films sont en attente de sortie d'après la Fédération nationale des éditeurs de films.
Facebook va sortir une nouvelle fonctionnalité pour concurrencer un autre réseau social.
On en a déjà parlé.
Ah oui, alors j'ai pas la bonne page.
C'est terminé
raison.
En fait.
Non, c'est terminé. J'étais revenu. Merci Antoine Genton. Merci Louise Bernard. Heureusement, j'étais en train de me dire, mais quand même, on revient à Facebook alors qu'on a parlé. Ça prouve que l'émission est en direct et c'est un work in progress, comme on dit en anglais. Dans un instant, notre info média du jour, on va s'intéresser à un documentaire sur ces enfants placés dans des foyers très spécifiques à la suite de troubles graves. On en parle avec Mélissa Thuriot et les journalistes et les productrices du documentaire Incassable ou Incasable sur France 2. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Bondel.
Chaque année, 300 000 enfants sont confiés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ASE. Certains, la plupart, se retrouvent dans des structures classiques, comme des foyers ou des familles d'accueil, et d'autres, bien moins nombreux, sont accueillis dans des lieux plus spécifiques, plus rares également, des maisons dans lesquelles ils sont très encadrés. C'est le cas de quelques centaines d'adolescents dont les troubles sont graves. Des enfants auxquels s'intéresse un documentaire diffusé ce soir sur France 2. Bonjour Mélissa Thurio.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct, même à distance. Vous êtes journaliste, vous êtes productrice et c'est vous qui produisez ce documentaire Incassable ou Incasable avec l'un des deux S qui est au centre entre parenthèses. Film écrit et réalisé par Katie Rios-Palma. On y suit 5 adolescents qui vivent ensemble dans un pavillon, on va y revenir. Ils sont encadrés par 6 éducateurs. D'abord, qu'est-ce qu'il dit ce titre Incasable, Incassable ?
Il résume bien en un mot le parcours de ces enfants qui, d'incasables qu'ils sont, ne rentrant dans aucune case et n'arrivant pas à les placer dans un endroit classique, deviennent incassables parce que j'ai l'impression que ces pavillons et ces petites structures dont on montre le fonctionnement permettent vraiment à des enfants de grandir, de se réparer, de se soutenir mutuellement et puis surtout d'être au cœur de l'attention et du professionnalisme d'une équipe d'éducateurs remarquable.
Alors dans le documentaire, on suit 5 adolescents, donc ils ont entre 10 et 18 ans. Parmi eux, il y a Alex, il a 12 ans et il est souvent en conflit avec les éducateurs.
Tu peux très bien descendre en fait, tu peux être avec les autres et ne pas t'exclure du collectif.
Je m'exclus pas en fait.
Bah si, tu t'exclus parce que tu restes dans ta chambre. C'est dommage de t'exclure du groupe. C'est
ce je m'exclus pas. Je suis toujours comme ça.
Bah oui, mais Alex, bah ouais, c'est dommage parce que justement tu t'exclus.
Le groupe, il me casse les couilles. Il
t'es bien content de les trouver en fait, le groupe. Hein.
Non.
Bon bah écoute, c'est pas grave. Vas-y, fais bien ton dessin.
Fais mon dessin. Il y a un problème.
Eh non. Alors non, moi je te dis, fais bien ton dessin.
Il y a un problème ou pas?
Tu veux qu'on rentre dans le conflit?
Il y a un problème ou pas? Je te demande juste s'il y a un problème.
Le problème, c'est la manière.
Moi aussi, je parlais comme ça.
Mais je t'ai pas parlé comme ça. Je t'ai dit, fais bien ton dessin. À quel moment je te manque de respect?
C'est ça. Tu te fous de ma gueule en plus.
Je me moque pas de toi parce que tu es en train de faire ton dessin. Je te dis, fais bien ton dessin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore après, Alex?
Exemple saisissant, on part de très très loin. De quoi ont d'abord besoin ces enfants, Mélissa Thurio? D'autorité, d'attention, d'écoute?
Oui, de tout ça, la colère d'Alex s'est beaucoup apaisée d'ailleurs depuis la fin de ce documentaire. D'abord, les 5 enfants que vous découvrez dans le film, que vous découvrirez ce soir, j'espère, sont toujours dans ce même pavillon. Ça veut dire que 2 ans plus tard, ces enfants, adolescents, sont toujours ensemble et ça signifie surtout la fin de l'hémorragie des placements. Vous savez que le grand problème des enfants placés, c'est qu'on les place incessamment et on change de structure. Et un enfant n'arrive pas du tout à se poser, à reprendre confiance à la fois en lui et en les autres. Là, on est sur un système de pavillon qui ressemble vraiment à une maison où il y a un sens du collectif, où il y a une fratrie qui se recrée avec en effet les colères, les failles et les douleurs de chacun, mais qui petit à petit s'apaise. Mmh. Aujourd'hui, Alex est plus grand. Il travaille bien au collège, il s'est beaucoup apaisé, donc a beaucoup moins de crises de colère comme celles que vous venez d'entendre. Donc c'est très positif quand même, l'accompagnement personnalisé, individualisé, en étant toujours dans favoriser le collectif.
Mélissa Thurio, je m'adresse à la productrice que vous êtes, vous parliez de colère, c'est l'une des rares scènes de conflit dans le film, celle dont nous avons choisi un extrait. Pourtant, pendant le tournage, certains de ces enfants ont commis des actes de violence, c'est dit, ils en parlent, pourquoi ce choix de ne pas les avoir montrés?
C'est-à-dire montrer d'autres scènes de violence,
oui.
C'est ça que vous dites?
Oui.
Honnêtement, les scènes de violence, elles existent, je trouve, dans le film. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait autant, mises de côté. Après, il y a des éclats de violence auxquels nous n'avons pas assisté, mais qui sont tout de suite débriefés par les éducateurs et les équipes psy, éducato-psy qui font un travail formidable. Et ça, c'est très rare quand même, d'avoir pu pénétrer ces débriefs, cette remise en cause, cette humilité de comment on peut mieux agir, comment on doit réagir face à cet acte-là. C'est rare d'avoir le off aussi. Vraiment, Katie a réussi là à les observer, à avoir leur confiance pendant des mois, peut-être 6 mois à s'en tourner, pour arriver vraiment à avoir les deux côtés du décor. Et on ne nie pas les difficultés, on ne nie pas les mises à l'épreuve. Moi, ce que j'espère faire peut-être provoquer dans un conscient collectif, d'abord, on ne parlera jamais assez de la protection des enfants et des modèles qui marchent, et surtout, valorisons nos éducateurs payons-les convenablement, mettons des moyens pour que ces pavillons existent.
On va en parler
partout.
On va parler de tout ça, Mélissa Thoriot. Alors, ces enfants ont tous été placés par un juge qu'ils vont revoir pour faire le point sur leur situation. Et parfois, ça ne se passe pas bien. C'est ce qui s'est passé avec Jérémy, il a 10 ans. Il vient de sortir du tribunal et l'éducatrice qui l'a accompagné raconte la scène à une autre.
C'était un peu compliqué, cette audience pour Jérémy. Il était très en colère contre la juge ou contre maman, je sais pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle lui a demandé de pas assister à l'audience parce que ça pouvait être compliqué pour lui parce qu'il y avait des choses à dire qu'il pouvait pas forcément entendre.
Ouais.
C'est, en fait, il est sorti, puis au bout de 5 minutes, il est revenu tout seul et il a dit non, je veux rester là. Donc j'ai commencé à parler et à dire un petit peu la situation, comment elle avait évolué depuis un an. Et là, il s'est levé, elle lui a demandé de sortir et il a pas voulu, il a tout bazardé.
Alors, en précision, Jérémy était déscolarisé à la suite de violences à l'école. Il a 10 ans. De manière générale, c'est une épreuve à chaque fois, j'imagine, le passage chez le juge, Mélissa Thoriot.
Oui, c'est ce qui bouscule un peu aussi toute la, comment dire, cette sécurité qui est en train vraiment de naître dans le pavillon. Quelques semaines avant l'audience, c'est toujours une grande appréhension. Donc, beaucoup de colère et de stress qui sont ressentis par les enfants.
Ouais.
C'est toujours, qu'est-ce qu'on va décider pour moi, quand même, ce jour-là ?
Évidemment.
Donc, on a beaucoup d'enfants qui espèrent encore être protégés, continuer d'être placés, de continuer leur séjour, évidemment, de protection dans le foyer dans lequel ils se sentent bien. Et puis, il y en a certains qui aspirent, on le voit avec Kaina, à retrouver leur maman et à retrouver leur chez eux. Donc, tout ça, c'est aussi beaucoup de stress et d'appréhension d'être, en effet, soumis à la décision d'un juge.
Vous parlez de ce foyer. Ces enfants vivent dans une structure particulière, on l'a dit, cette maison où chacun a sa chambre, où les enfants partagent les espaces de vie commune. Qu'est-ce qu'elle a de singulier en plus ?
Bah tout, vous le remarquez, c'est-à-dire qu'on est justement sur une toute petite structure. Avoir autant d'éducateurs que d'enfants qui cumulent les difficultés. S'ils sont placés ici, c'est parce qu'en effet, ils ne pouvaient pas être placés dans un foyer plus grand ou dans une famille d'accueil, ou qu'ils ont mis à défaut déjà d'autres placements plus classiques. Donc cette attention particulière, cet accès aux soins permanents, encourager une reprise scolaire quand les enfants sont déscolarisés, c'est le cas, on le voit dans l'année de tournage de Katie, mais aussi permettre le lien aux familles d'accueil, qui souvent est rompu lorsqu'un enfant est placé. On voit qu'Alex cite toujours, souvent sa tata.
Ouais.
C'est très important que les week-ends, de temps en temps, ils puissent encore avoir un lien avec ces familles d'accueil qui les ont en partie élevées. Tout ça est intelligemment, il nous l'a semblé, étudié par cette équipe. Donc il y a un lien aux parents biologiques quand c'est nécessaire et quand l'enfant le désire et quand le parent le veut aussi. Un lien à la famille d'accueil, un lien aux soins, évidemment, aux thérapies qui sont mises en place pour les aider à avancer. Et puis un lien aussi à l'école. Donc tout ça est possible parce qu'il y a ce traitement individualisé, personnalisé envers chacun des enfants.
Question terrible, est-ce que c'est le dispositif de la dernière chance ? Que se passe-t-il si ça ne marche pas ?
Moi j'ai l'impression que ce dispositif, il devrait exister pour peut-être 100 ou 200 000 enfants qui sont sous le coup d'une mesure de protection. C'est-à-dire qu'il devrait permettre à des tas d'enfants qui aujourd'hui sont en foyer ou en famille d'accueil, il devrait s'adresser à eux. Et il n'y a pas besoin d'avoir les immenses souffrances et difficultés qu'ont vécu ces enfants pour avoir besoin de cette attention particulière. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de construire des adolescents qui vont devenir des adultes et qui seront des adultes pleins, qui auront les armes sans doute pour réussir leur vie. Si on ne se penche pas sur la confiance qu'on doit leur donner, on continuera d'avoir des chiffres que vous connaissez, qui sont ceux de 25% des SDF, qui sont d'anciens enfants placés, qui sont de l'assistance publique, de l'ASE, ou d'autres encore qui sont évidemment mis en échec et qui peuvent eux-mêmes se mettre dans des situations de conflits, de violences, de délinquance. Donc, on doit absolument se pencher sur des modèles, c'est ce qu'on fait avec ce film, de montrer des modèles d'accompagnement et de protection qui les font devenir de jeunes adultes responsables, confiants.
Alors justement, ces 5 enfants souvent violents qu'on voit dans ce doc sont très différents les uns des autres. On se dit, mais comment vont-ils pouvoir vivre ensemble ? Ça peut dégénérer. Et en fait, ça se passe bien. C'est ce qu'on va voir juste après ça. Vous restez avec nous, Mélissa Thoriot. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Mélissa Thoriot, journaliste, productrice, elle produit ce documentaire incasable ou incassable, suivant qu'on mette un ou deux S dans ce mot. Film écrit, réalisé par Katie Rios Palma. On suit 5 adolescents qui vivent ensemble dans un pavillon encadré par 6 éducateurs. Il s'agit de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. 5 enfants, souvent violents, je l'ai dit, très différents les uns des autres. On se dit, mais comment vont-ils pouvoir vivre ensemble ? Ça peut vite dégénérer. En fait, ça se passe bien. Il y a beaucoup de scènes joyeuses, beaucoup de scènes tendres. entre eux et avec les éducateurs. Comment arriver à les faire vivre ensemble, Mélissa Thoriot?
Mais c'est justement ces moments de regroupement. D'abord, ils doivent aider à faire la vaisselle, aux tâches ménagères, à apprendre aussi à devenir un peu plus autonome, faire des recettes, par exemple. On voit que certains ont quelques difficultés à compter, à se projeter dans le concret, et puis petit à petit, ils réussissent. Donc, c'est des petites victoires personnelles aussi qui rejaillissent sur le groupe. Et puis, la réalisatrice a une idée d'un procédé que je trouve très intéressant, qui est ce conte, c'est-à-dire que les enfants se sont retrouvés régulièrement pour parler d'un personnage fictif qu'ils inventaient. Et c'était une façon de ne pas les interroger face caméra et les faire à nouveau parler de leur histoire. C'est souvent difficile et on voulait respecter cette pudeur. Ils n'arrivent pas forcément à le faire. Et en fait, en créant un personnage, ils arrivent à mettre beaucoup d'eux-mêmes. Ouais. On le voit au fil du film. Ce personnage devient un peu ce qu'ils aimeraient devenir eux. Et il nous donne des éléments vraiment intimes et précieux pour les connaître.
Alors justement,
comment ils aimeraient diriger le pays, comment ils aimeraient mieux protéger les enfants, ce qu'ils aimeraient faire comme métier. Voilà, c'est très émouvant d'y assister.
Comment ils aimeraient diriger le pays, il y en a beaucoup qui parlent de ça dans les bistrots. Puisque vous en parlez, pour créer de la cohésion, pour créer du lien entre ces enfants, on va entendre un petit son de ce jeu-là. Les enfants doivent imaginer un personnage qu'ils appellent Julien, un garçon à qui il arrive des aventures, histoire de faire travailler leur imagination. Eh bien, ça marche.
Allez, on va passer aux passions.
Alors, les passions de Juju.
Ben, le sport, du coup.
Il aime quoi?
Le sport, du coup.
Le sport, ouais.
Faire beaucoup de foot.
Ouais.
Le basket.
Ouais, aussi du basket, aussi.
La sieste.
Le ping-pong.
Du volley. Volley.
La balançoire, aussi.
Il aime bien les licornes. Non, je dis comme un vélo. Ça existe plus.
Non, non, il peut aimer les licornes.
Il aime bien la déesse de l'amour là, comment elle s'appelle?
Cupidone.
Non, pas Cupidone, Aphrodite. Il rêve de voir Aphrodite parce qu'il la trouve hyper jolie, genre.
C'est très très beau, c'est un très beau moment. Et puis ces enfants arrivent à se livrer à d'autres occasions. Ce sont des moments forts comme celui-ci. Alors que tout le monde est en vacances dans le sud de la France, il y a Kaina. Elle a 15 ans, elle discute avec l'un des éducateurs, Mathieu. Quelques heures avant, elle avait cassé la vitre arrière d'une voiture.
Je ne peux pas me concentrer sur une chose à la fois, Mathieu.
Enfin, c'est aussi ce qui fait qui tu es, tu vois, Kaina.
Oui, mais je ne peux pas rester comme ça.
Il y a des difficultés que tu ne peux pas contrôler, Kaina. Est-ce que tu as envie de changer?
Oui, j'ai envie. Parce que j'ai envie de faire les choses de moi-même aussi. J'ai pas envie de me retrouver bizarre ou vide à rien faire toute seule et à ce que tout le monde le fasse à ma place. Non, j'ai envie de le faire toute seule, comme une fille normale. J'en ai marre de me sentir différente. C'est un peu chiant, en fait, on peut le dire.
J'ai pas envie de me sentir bizarroïde, j'en ai marre de me sentir différente, je veux changer, dit Kaina. Et c'est l'un des points forts de ce documentaire, arriver à montrer que ces enfants aspirent à changer, qu'ils ont de l'espoir. Finalement, ils ne demandent qu'à être des enfants, presque.
Mais oui, arriver à ces moments d'authenticité, c'est quand même très fort. Moi, ça continue de me bouleverser d'entendre Kaina. Ouais. Parce qu'arriver à ressentir autant de lucidité, autant d'envie d'arriver à être comme les autres, autant d'envie de réclamer de l'aide aussi, c'est aidez-moi à y arriver parce que je veux progresser et je sais que j'ai des difficultés. Et un éducateur qui a un discours aussi qui peut heurter, mais qui est très transparent et qui doit être franc. Tu as des difficultés dont tu n'es pas responsable, mais tu peux parvenir à monter ces échelons et à devenir autonome et à progresser.
Justement,
donc c'est émouvant d'assister à ces échanges.
Justement, Mélissa Thoriot, on a parlé des éducateurs. Ils suivent au plus près ces enfants à l'image de Marion avec Gabriel. Il a 13 ans, il a été victime de violences dans sa famille et Marion l'accompagne pour son entrée au collège. Au moment que le garçon redoutait, elle est là également à la sortie des cours.
Hey, ça va?
Bonjour.
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 Ça va?
Bonjour.
Tu vas bien?
Bonjour.
Ça s'est bien passé?
Oui.
Oui?
Bah oui.
T'es content? T'as
bah
pas
oui.
Le chaud? Tu veux ouvrir ta veste?
Oui.
Tu veux pas que je te prenne ta veste? Il y a besoin que je lui dise que je suis là ou c'est bon?
Bah non.
On y va alors? Et donc il y a eu quoi comme matière?
Bah français, anglais. Là, t'as l'air, il y avait anglais.
Ah ouais?
C'est. Bah là, j'ai mon travail qui est là.
Et t'as eu des récréations?
Bah oui. Deux.
Et du coup, t'as joué avec qui? T'as fait comment?
Bah je joue au foot.
Mais avec qui?
Bah t'es une copine.
Donc ça, et tu t'es fait des copains?
Bah ouais.
On sent cette énergie, cet enthousiasme, cette empathie. C'est également un film sur les éducateurs et les éducatrices.
Oui, c'est dommage, on ne voit pas l'image, mais
c'est le principe
le
de
sourire
la radio.
Solaire. Oui, absolument.
Mais on entend le sourire. Vous avez raison, Mélissa.
Non, parce qu'elle est comme une maman, cette Marion, et je trouve qu'elle a un sourire où elle est dans le plaisir de voir cet enfant qui redoutait tant et qui ne voulait pas être scolarisé, qui voulait rester en soins, ne pas aller à l'école, et qui est plein de confiance parce qu'il s'est fait des copains et parce qu'on sent que ça y est, quoi, la machine est enclenchée, et puis qui va s'insérer. c'est chouette d'assister à ces moments-là, quand même, pour les éducateurs comme pour ces enfants qui deviennent grands.
On est bien d'accord. Dans le documentaire, il n'y a pas de commentaires, pas de voix off, juste quelques infos écrites à l'image. Pourquoi avoir choisi cette forme pour que ce soit plus direct ?
Non, et jamais. Dans tout ce que je peux faire autour de la protection de l'enfance, je serai toujours rétive aux commentaires. Et j'essaie en effet de convaincre les diffuseurs qui me suivent jusque-là plutôt facilement, sur vraiment la nécessité de ne pas prendre la main le téléspectateur et de ne pas le guider. Parce que même un commentaire neutre, je trouve qu'on tend à faire penser d'un côté ou de l'autre comment un éducateur fonctionne ou comment d'où viennent ses enfants. On voulait absolument pas de ce procédé avec Katy, mais comme aucun des films que je produis autour des enfants, il faut laisser cette observation. Et je crois que notre force, c'est d'avoir passé près de 2 ans à faire ce film.
2 ans.
Et il est parlant. Ouais, c'est 2 ans.
2 ans. Et combien de temps sans tourner ?
Ah ben, c'est 6 mois. Vraiment d'observation, des conseils, d'arriver à être dans ce pavillon sans caméra, puis enfin, en effet, de s'insérer dans ce petit pavillon où les enfants ont complètement ont pu oublier Katy, quoi. Oui. Il y a des moments très authentiques que vous avez vus, Philippe, où on sent très bien que ces enfants ne sont plus du tout dans un procédé de filmage, quoi.
Ouais. D'autres documentaires que vous avez produits et que j'ai vus, c'est pas le premier programme que vous produisez autour et avec des enfants. Il y avait eu Bouche cousue, formidable film sur le travail d'un juge pour enfants. Il y avait aussi Au tableau, l'interview d'une personnalité par une classe d'écoliers. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce point ? Ce sera ma dernière question. Dans l'enfance, Mélissa Thuriot.
Bah, c'est le point de départ de la vie. On vit dans un pays qu'on veut démocratique. On parle des chances que tout chacun doit avoir. Ça commence par l'enfance. Ceux qui subissent la violence, ceux qui ne la subissent pas, ceux qui ont les chances d'être accompagnés, ceux qui ne le sont pas. Cette inégalité-là, elle joue sur toute la vie, tout un parcours, toute l'économie, toute la construction. C'est politique ce que je vous décris, mais on part de l'enfance. Donc, rétablir un peu et montrer un modèle de protection ou s'intéresser aux plus fragiles, c'est à un tout petit niveau rétablir une forme, je ne sais pas, d'équilibre avec nous-mêmes, en tout cas qui nous semble nécessaire, et puis la principale priorité. Je produis, je suis libre, c'est celle-ci ma plus grande priorité, c'est de m'intéresser aux enfants et à leur protection.
Quel joli mot de la fin. Merci beaucoup Mélissa Thuriot. Je le rappelle, incasable ou incassable, suivant qu'on met un ou deux S à ce mot, c'est ce soir, 22h55 sur France 2. C'est déjà disponible sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous en direct. On entend le son derrière vous, des petits oiseaux. Je ne sais pas où vous êtes, mais ça fait envie. Dans un instant, nous serons avec l'humoriste et animateur Issa Doumbia. Lui aussi, il a de la chance. Il présente son premier prime demain sur M6. Ça s'appelle Show Me Your Voice. Vous allez entendre sa voix à tout de suite dans Culture Média.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Bondel.
Bonjour Issa Doumbia.
Bonjour.
Vous êtes humoriste et de plus en plus animateur télé. On vous avait vu sur W9 pour des bêtisiers. Auparavant, vous avez vu dans les bandes d'Hanouna, dans Touche pas mon poste, ou Arthur, dans Vendredi tout est permis sur TF1. Également comédien dans Nos chers voisins sur TF1. Quel CV est là ? Un step de plus, un pas de plus, un grand show en prime time sur une grosse chaîne pour vous seul. Ça s'appelle Show Me Your Voice. C'est demain sur M6 à 21h. Oui. Alors, rien que le titre est trompeur, Show Me Your Voice, je traduis pour Hélène Manarino, ça veut dire montre-moi ta voix. Une voix, ça se montre pas, ça s'écoute. Alors, c'est quoi l'idée ?
Ah, l'idée, c'est de tromper les gens un maximum. Donc, il y aura des personnes qui vont interpréter des chansons en playback. Donc, on les entendra jamais chanter, mais il y aura beaucoup, beaucoup d'autres situations où on va les voir s'exprimer artistiquement.
Mais en même temps, c'est quand même un jeu. Il faut expliquer un
c'est
tout
un
petit
jeu.
Peu. Vous voulez que je passe le début de l'émission ?
Allez-y.
Au tout début, c'est en 5 étapes et le principe est expliqué en début de jeu.
Sarah et Jenna, nos deux candidates, vont découvrir 9 chanteurs mystères. Mais attention, si certains sont bien des chanteurs, d'autres sont de véritables casseroles.
Les gens me disaient de ne pas lâcher là.
À chaque étape de la soirée, les candidates devront démasquer les imposteurs et les éliminer.
N'oubliez pas, tous les imposteurs sont là pour vous balader.
Vous voulez mon avis ou pas ? Faut le sortir.
5 étapes pendant lesquelles nos chanteurs mystères en mettront plein la vue à nos candidates et nos experts pour tenter de les convaincre qu'ils sont bien tous de bons chanteurs. Des indices les aideront au fur et à mesure à démasquer les vrais chanteurs des imposteurs.
Alors les indices, je peux vous dire, les indices, plus il y a des indices, moins on comprend. pour avoir
c'est
vu l'émission,
qui
j'ai vu l'émission jusqu'à la presque fin parce que je ne sais pas si elle gagne ou si elle ne gagne pas parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite. qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'elles gagnent, les deux candidates?
Elles gagnent 20 000 euros.
Alors, 20 000 euros ou alors une chanson. Et vous-même, j'ai découvert ça en préparant l'entretien, vous ne savez pas qui est un vrai chanteur et qui est un bidon.
Je ne sais pas, mais vraiment, je n'ai pas participé au casting. Je ne sais pas, parmi les 9 chanteurs mystères, qui est bon, qui est mauvais. Je ne les ai jamais vus et on les découvre tous ensemble le jour de l'émission.
On les découvre par une profession, c'est vous dites. Il y a Exactement. Le garagiste, il y a l'institutrice, c'est il y a, ça. J'ai oublié les professions, le garçon de café.
Et pour moi, je l'ai appelé le Cluedo musical.
Voilà. C'est quelque part entre The Voice et Masked Singer. C'est un format coréen.
Oui.
Ça ressemble beaucoup à Masked Singer.
Non, pas tellement. Masked Singer, on est dans une grosse...
Il y a des gens qui chantent et on ne sait pas qui c'est.
Oui, mais...
Et là, on sait qui c'est, mais on ne sait pas s'ils chantent. Franchement, on n'est pas hyper loin non plus.
À ce niveau-là, d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais en vrai, pour moi, c'est un vrai jeu où on va se prendre au jeu en famille. Hein.
Ouais.
On va être tous devant nos écrans en train de se dire « Non, lui, c'est sûr, le garagiste, il chante super bien. Non, mais regarde comment il est à l'aise sur scène, tout ça, nanana. » Et au fur et à mesure, ben, on va découvrir que plus on a d'indices, plus on se perd.
Vous avez vu le format coréen, c'est aussi un succès dans plein de pays, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Vous avez aussi vu le format américain.
Oui.
Vous les avez trouvés comment? Parfait, on touche à rien, ou vous avez amélioré?
Non, le format américain, il m'a parlé parce que c'est aussi un comédien qui le présente, qui joue dans Very Bad Trip, et du coup, je me suis dit, bah, ça va être mon domaine. Je vais pouvoir me balader en tant que comédien et pas forcément en tant qu'animateur. Mmh. Cette nouvelle étiquette, j'essaye d'apporter ma touche et je pense que dans cette émission, vraiment, je suis le plus à l'aise. C'est l'endroit où j'ai été le plus à l'aise qu'ailleurs.
Ouais. Y a une mécanique très complexe. Donc, il y a deux candidates.
Oui.
Mais enfin, elles sont deux, mais elles sont ensemble.
C'est ça.
C'est deux sœurs, hein, je ne me trompe pas.
Oui, là, voilà. C'est Sarah et Jenna.
Voilà. Combien il y a de vrais faux chanteurs?
Mais ça, on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas combien il y a de vrais faux chanteurs.
Au début, j'ai cru qu'il y en avait 9, donc je me suis trompé.
Ah si, au début, il y en a... Pardon, excusez-moi. Il y a 9...
C'est pour ça que je dis vrais faux.
Chanteurs mystères.
9 chanteurs dont on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux.
Mais après, je ne sais pas combien il y en a de bons et combien il y en a de mauvais.
C'est tellement complexe, cette mécanique. Et ensuite, un jury, il y a 4 personnes. Vous les savez par cœur ou pas? Je les ai notées, si vous ne les avez pas.
Il y a Philippe Lelouch, il y a Hélène Ségara,
ouais.
Éric Antoine, Élodie Frégé.
Voilà. Et en plus, un chanteur invité.
Exactement. Claudio Capeo.
Et alors, j'ai dit, donc, dans le jury, il y a ces 4-là. Ils vont faire toutes les émissions ou c'est un jury tournant?
Non, ils vont tourner parce qu'au fur et à mesure, on commence à trouver comment démasquer les chanteurs imposteurs. Donc,
ouais.
Sur les autres, on a tourné encore, on a tourné l'effectif. Donc, tout le monde se perd à un moment.
D'accord. Alors, quand les candidats chantent bien, ils chantent vraiment bien. Mais quand un imposteur qui se révèle, il chante vraiment mal. Et alors, comme je veux garder tout le monde avec moi dans mon émission, je leur dis, écoutez, la casserole, je vous la fais entendre juste après une pause. Si vous avez des boules qui yes, allez les chercher. On revient tout de suite avec Issa Doumbia.
On va saigner des oreilles.
Tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Issa Doumbia,
oui.
Comédien et animateur. C'est lui qu'on entend, c'est sa voix qu'on entend. Et il présente un prime, son premier grand prime sur une grosse chaîne hertzienne, c'est M6, ça s'appelle Show Me Your Voice.
Oui.
Je parlais de sa voix parce que c'est un concours de voix. On doit deviner, il y a plein de chanteurs qui se présentent devant le public, devant la scène. On doit deviner s'ils sont de vrais chanteurs ou de faux chanteurs, parce que la première fois, ils chantent en playback. Donc je l'ai dit, quand les candidats chantent bien, ils chantent bien. Quand il y a un imposteur qui se révèle, alors à l'image, ça se remarque pas, mais alors au son, ça se remarque, la preuve.
Les chiffres dans...
On entend Élodie Frégé qui s'exclame et dit « c'est pas possible de chanter aussi mal ». Vous leur avez demandé de forcer le trait ou c'était naturel ou ils
Moi,
sont comme ça?
Moi, je leur ai rien demandé, je les connais pas. Je ne les ai jamais vus, les chanteurs mystères. Je les ai jamais vus.
Non, mais peut-être que la prod leur a demandé de forcer le trait.
Franchement...
Parce que là, je pense qu'ils chantent encore plus mal que Bertrand Chameroy.
Franchement, c'est en tout cas, quand il chante, ça me fait rire parce que je me dis, non mais c'est fou de chanter aussi ouais. faux. Mais ce qui est le plus beau, c'est qu'il y a un super tableau autour d'eux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des danseurs, il y a toute une chorégraphie qui est faite, il y a des lumières, c'est un vrai show pour eux.
Et puis il y a quelque chose qui est très très drôle, je vais raconter parce que pour avoir vu l'émission, c'est que quand les candidates pensent que ça va être un mauvais chanteur et que c'est un vrai chanteur qui chante hyper bien, elles sont abattues. Mais quand elles pensent que c'est un mauvais chanteur et que c'est un mauvais chanteur, donc il chante comme une casserole, elles sont enchantées.
Elles sont super contentes.
Elles sont super c'est là contentes d'entendre cette bouillie. Et c'est là où on se marre bien. Vous avez signé pour combien d'émissions ?
Ah, ça, je ne peux pas le dire.
Vous avez signé pour deux ou pour plus ? Ou est-ce que vous attendez de voir les scores ? On est émission média.
Sincèrement, j'aimerais en faire plein. Après.
Vous avez fait deux déjà ?
J'en ai fait.
Ne me dites pas que vous n'avez pas fait deux, puisque Élodie Gossuin a raconté comment s'est passé le tournage de la deuxième.
Oui,
donc je
d'accord.
sais qu'il y en a une deuxième.
Il y en a déjà une deuxième, mais peut-être qu'il y en a une troisième et une quatrième.
En tout cas, vous avez déjà fait deux.
Oui.
C'est l'info, c'est qu'on est une émission média
oui,
ici,
oui,
on n'est pas
sûr,
simplement pour rigoler.
Fait, hein.
L'an passé, vous aviez participé à la deuxième saison de Masked Singer sur TF1.
Oui.
Vous avez fini troisième, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous avez profité pour vous souvenir de trucs, de tips, de choses à reprendre
Non, pas forcément, parce que là, mais par contre, ça m'a aidé à vivre l'émission en tant que candidat
ouais.
et de savoir toute la pression qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Donc, les 9 chanteurs mystères, j'ai vécu leur situation et je me dis, bah, faut les bichonner un petit peu.
Ouais.
Donc, à des moments, il y avait des pauses et tout ça. Donc, je sais qu'ils ont fait un très, très gros travail.
Ouais, non, non. Et puis, vous êtes très, très bienveillant quand on vous voit animer.
Eh ben, j'essaye. Voilà. J'essaye.
Je l'ai dit, on va attendre l'audience. Vous avez un chiffre d'audience en tête ou pas ?
Je sais.
Tiens, on va voir. Vous avez regardé ce qui était en face de vous ?
Oui,
soir.
Par contre, je sais.
Alors,
c'est mon copain Jean-Luc Reichmann.
Exactement. Léo Mattei sur TF1. Sur
c'est
la
ça.
2, vous savez ce que j'ai noté, tout ce qu'il y avait en
non,
face.
Non, je sais juste qu'il y a Jean-Luc Reichmann.
Et oui, parce qu'en fait, le cœur de combat de TF1, j'explique ça pour les gens qui ne connaissent pas les arcanes des médias et de M6, c'est la ménagère, la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et donc, c'est les deux cibles privilégiées par TF1. Sinon, sur France 2, il y aura Envoyé spécial. Sur France 3, il y aura Un village presque parfait, c'est un film. Sur France 5, il y aura un doc sur les dinosaures. Et vous savez ce qu'il y aura sur ces stars ?
Non, pas du tout.
Alors, ça s'invente pas. J'ai trouvé ça ce matin. Le grand bêtisier de Noël.
Au cas où, on l'a loupé.
Ouais. Ou alors, c'est le prochain avec 6 mois d'avance.
Peut-être, je ne sais pas.
En télé, vous avez fait plein de choses. Vous avez présenté une émission sur Gulli avec Cartman.
Oui.
C'était quoi, ça ?
Battlebot.
Ouais, mais c'était quoi l'idée ? Je connais que le titre, j'ai pas vu l'émission.
C'est des combats de robots. Alors, j'ai trouvé ça génial. Mais ouais. Vraiment, c'est une culture américaine qui est folle, où c'est vraiment une arène avec 2 robots qui sont à l'intérieur de l'arène. Et il y a 2 équipes qui s'affrontent dans une arène qui est complètement piégée aussi, cette arène. Il y a du feu, il y a des scies, il y a plein de choses. Et du coup, c'est le robot qui reste, qui fonctionne jusqu'à la fin, qui gagne.
Et vous avez continué à présenter des émissions. C'est à quoi on reconnaît que quelqu'un va être une vedette ou est une vedette ? C'est quand son nom est dans l'émission. Eh bien, en 2019, sur TF1, vous avez présenté Vendredi, tout est Issa.
Oui, c'est vrai.
Et en 2021, sur M6, Issa dans tous ses états.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Et quand on a son nom dans l'émission, c'est donné à très peu.
Eh ben, ça me fait plaisir. Moi, je m'amuse. Tant que je m'amuse, je continue à faire les choses. Après, si je m'amuse pas, je fais pas. Mais là, je me suis vraiment, vraiment amusé dans Show Me Your Voice.
Prochain projet, parce que vous êtes dans le groupe M6, vous présentez des émissions sur W9. À part ça, vous avez quoi en tête qui va arriver ?
Bah, je vais
peut-être
proposer...
Un petit bêtisier de Noël. Vous aviez fait le bêtisier du confinement. On s'était bien marré à regarder
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, sur W9.
Il était vraiment très bien.
Merci, c'est
non,
gentil.
Je vais dire pourquoi il était très bien. Parce que c'était une vraie compilation d'images faites par le confinement. Et pas
c'est
des
ça.
Choses faites de briques et de brocs qu'on avait vues 200 000 fois.
Ah non, non, on a vraiment une équipe qui cherche ouais. des vraies vidéos. Et on essaye de trouver les vidéos les plus récentes. Parce que souvent, dans les bêtisiers, on a les vidéos de nos arrière-grands-parents.
Ouais. des VHS. Juste un mot, je suis obligé de vous parler de cinéma. Parce que vous êtes annoncé dans le prochain Astérix de Guillaume Canet.
C'est moi.
Dans le rôle de Baba. Qui
oui.
sera Baba ? C'est un mec de Rome ?
Oh.
Baba, Rome, humour. Merci. Merci Nicolas Souvent. Je l'ai préparé, je me suis dit, c'est pas possible.
Eh bien, Baba, j'ai l'honneur de reprendre le rôle que Mousse Diouf jouait. C'est-à-dire, c'est le pirate, le vigie qui est tout en haut et qui annonce
qui voit la terre.
L'arrivée des Gaulois à chaque fois.
Ouais.
Les Gaulois. Et donc, après, à chaque fois, les pirate se retrouve à l'eau. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que Mousse Diouf, c'est une des premières personnes qui est venue me voir quand je jouais en championnat de France d'improvisation théâtrale. Il est venu me voir avec Omar et Fred. Et ça m'a fait plaisir. Et de savoir que je vais jouer son rôle, eh ben, c'est un honneur.
Mousse Diouf, on salue sa mémoire. Merci beaucoup, Issa Doumba Boudoumbia. Pardon, beaucoup plus joyeux. Donc, Show Me Your Voice, c'est demain sur M6 à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
En direct dans Culture Média. L'émission continue évidemment. Il y aura le rappel des titres à 10h. On sera avec Clémence Olivier pour le zapping du lendemain avec un docu-fiction à la limite du film catastrophe.
Bonjour à Clémence.
Et Bertrand Chamerois qui sort à l'instant de ses cours de chant pour un écran de veille très glamour. Notre invité, c'est le patron du pôle culture de France Télévisions et il est aussi écrivain. C'est Michel Field. Il nous raconte le Paris qu'il aime tant dans Paris et moi, son nouveau livre. Et puis dans Les Indispensables, on va parler de rock et d'une romancière en panne d'inspiration. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.